C'est donc le journal avec vous, Charlotte Piret. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Rescapé de l'horreur, alors qu'Emmanuel Macron a dit vouloir faire de la question des migrants détenus en Libye une priorité, France Inter a recueilli le témoignage terrifiant d'une jeune réfugiée. François de Rugy blanchit, c'est lui qui le dit, mais est-ce que ça suffit? Pas sûr, nous dira Yael Gauze. Dans l'actualité du jour également, l'inquiétude des salariés d'Ascoval dans l'attente d'une décision judiciaire sur l'avenir de leur entreprise. L'inquiétude aussi et les questionnements de la famille d'une Française disparue il y a près d'un an au Japon. La canicule toujours et la souffrance de ceux qui vivent dans la rue. Et puis l'engouement des Français pour le Tour de France. Un certain Julian Alaphilippe y est peut-être pour quelque chose.
Évidemment. Dans un quart d'heure, nous recevons le député Les Républicains, Guillaume Larrivée.
France Inter.
Vous l'avez peut-être entendu hier sur France Inter, la volonté affichée par Emmanuel Macron de mettre fin à l'enfermement des migrants en Libye.
Et face à ce qui est devenu une priorité française, désormais il y a la réalité vécue chaque jour par ces migrants dans un pays toujours en proie à la guerre civile. Bombardements de camps, violences, tortures, viols à répétition. 5200 personnes sont ainsi piégées dans les camps libyens, sans doute plus encore dans les prisons illégales des trafiquants et autres milices. À situation humanitaire catastrophique, témoignage glaçant, comme celui recueilli par notre envoyé spécial dans un foyer tunisien du Croissant Rouge à Médénine. Une jeune exilée de Sierra Leone lui a confié ce qui a été son quotidien en Libye. Rémi Brancato.
Ces deux garçons, des jumeaux âgés de 3 semaines, dorment profondément au bord du lit. Mariama Camara, 28 ans, semble épuisée. Elle a quitté la Libye il y a 7 mois.
Je me suis retrouvée avec ces ravisseurs pendant plus d'un mois. Ils m'ont violée et ce sont ces viols qui m'ont mise enceinte de ces deux bébés.
Après avoir fui les persécutions en Sierra Leone après un naufrage en Méditerranée, l'asile en Tunisie lui est refusé. Alors en octobre dernier, elle tente un retour en Afrique de l'Ouest. Elle se rend à nouveau en Libye. Elle est immédiatement prise en otage.
Ils m'ont demandé de payer 1000 euros pour me libérer. Mais je n'ai aucune famille à contacter. Je n'avais aucune idée de comment me sortir de là, donc j'ai plaidé ma cause auprès de ce gardien. J'étais malade. Je lui ai dit, je pense que je suis enceinte, c'est toi qui m'as mise enceinte, parce que tu me gardes ici et tous les jours tes amis viennent me violer. Il faut que tu m'aides à m'enfuir.
L'homme la libère et la ramène en Tunisie où elle accouche fin juin de ses jumeaux Monji et Will. Depuis, Mariama attend, dit-elle, une réponse à sa nouvelle demande d'asile.
Si c'est négatif, je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'espère simplement le meilleur pour le futur et celui de mes garçons.
Dans le foyer du Croissant Rouge où vit Mariama, les migrants ont tous été détenus en Libye et l'immense majorité des femmes y a été violée.
Un témoignage recueilli par Grémy Brancato et à retrouver en intégralité sur franceinter.fr. Un projet de loi tricoté aussi finement qu'une layette de bébé. Ainsi l'ont voulu les trois ministres de la Santé, la Justice et la Recherche qui portent le texte sur la bioéthique et sa mesure phare sur la PMA pour toutes. Texte présenté ce matin au Conseil des ministres qui prévoit donc l'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes célibataires, mais aussi la mise en place d'une reconnaissance anticipée de filiation pour la femme qui ne porte pas l'enfant et la mention de cette déclaration sur l'acte de naissance jugée d'ores et déjà discriminatoire par certains. Autre mesure encore, la possibilité de congeler ses ovocytes sans raison médicale ou l'accès à des renseignements, voire à l'identité des donneurs de sperme en cas de PMA. Faire de l'affaire de Rugy une affaire Mediapart, objectif clairement affiché hier par l'ancien ministre de l'écologie sur le plateau du 20h de France 2, une semaine après sa démission et quelques heures après la publication des résultats, plutôt en sa faveur, des deux enquêtes diligentées par l'Assemblée nationale et le gouvernement. François de Rugy a dit se présenter en homme blanchi face à un journalisme de démolition selon ses termes. Contre-offensive en règle donc, est-elle cependant suffisante pour espérer un retour au premier plan de la vie politique? Pas si sûr, Yael Gauze.
C'est la revanche qu'il aimerait gagner, revenir la tête haute dans le débat public, tout effacer et redevenir ministre. Il a été très bon à la télé, sincère, mais ce n'est pas le sujet, élu d'un conseiller à Matignon. Le gouvernement, ce n'est pas un yo-yo, répond l'un de ses soutiens. Silence à l'Élysée. Devant tout son gouvernement réuni à dîner hier soir, le président n'a pas évoqué l'affaire Rugy. Soyez déterminé et humble à la fois, a-t-il simplement dit à ses ministres. François de Rugy aurait-il dû, aurait-il pu tenir? Son seul regret, ne pas avoir répliqué à temps sur l'utilisation de ses frais de mandat. La semaine dernière, il n'avait pas sous la main les relevés bancaires prouvant qu'il avait déjà remboursé les cotisations. Hier soir, aux 20h, c'est cet élément nouveau qui était censé le blanchir. Sauf que c'est tellement technique que personne n'a compris, soupire l'un de ses proches. Doit-il publier ces fameux relevés? Un dilemme, car y figurent aussi toutes ses dépenses privées. arrivée. L'ex-ministre compte désormais sur ses avocats pour gagner le match retour, malgré deux inspections plutôt favorables, trois dîners qu'il va rembourser. Son avenir s'écrit en pointillé, en attendant de redevenir député le 17 août prochain.
Une analyse signée Yael Gauz.
7h35, plus de 10 000 emplois supprimés dans le monde.
C'est ce que prévoit le constructeur automobile japonais Nissan après une mauvaise année, les moins bons résultats depuis 11 ans. La plupart de ces suppressions de postes devraient avoir lieu dans des usines situées en dehors du Japon. Et une nouvelle fois, l'attente, l'incertitude et les inquiétudes pour l'avenir. Les salariés d'Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord sont suspendus à la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg qui doit valider ou non le plan de cession de l'acierie alors que le repreneur, le groupe British Steel, est lui-même en difficulté et placé en redressement judiciaire. Bref, les nuages semblent plutôt s'accumuler à l'horizon, Maxime Debs.
Méfiant, Nassim Bardi de la CGT Ascoval a appris à l'être depuis 4 ans et les débuts du mauvais feuilleton. Une nouvelle fois, il va croiser les doigts dans l'attente que la justice se prononce.
Soit elle accepte la modification du plan de cession, donc on continue, soit elle n'accepte pas le plan de cession, et alors là, c'est le point d'interrogation. S'il n'accepte pas, qu'est-ce qui se passe ?
La liquidation, certains commencent à y penser, d'autres en ont assez, las d'avoir été pris pour des pions. Beaucoup songent ou ont déjà posé leur démission dans l'objectif de tourner enfin la page et d'entamer une nouvelle vie.
On ne peut pas vivre éternellement avec l'incertitude. On a tous des enfants, on n'a plus de projets, on ne peut plus prévoir des projets parce qu'on nous refuse tout. Les banques nous refusent des prêts, c'est normal. Quand on leur dit qu'on est d'Ascoval, c'est bloqué. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui pensent à partir. Il y en a qui sont déjà partis, il y en a qui pensent à partir.
En mai dernier, pour bon nombre de salariés, la mise en faillite du groupe British Steel au Royaume-Uni sonnait le glas d'Ascoval pour de bon, en partie rassuré par les pouvoirs publics qui répètent à l'envi que la reprise se fera bien. Les syndicats veulent aujourd'hui voir leurs craintes réellement apaisées par le tribunal de Strasbourg, rendu de son jugement attendu peu avant 10h ce matin.
Une bonne surprise pour les vacances de certains, la perspective moins réjouissante d'un remboursement effectué d'ici le 15 septembre pour d'autres. La campagne de régularisation des crédits d'impôt débute aujourd'hui. Ceux qui emploient un salarié à domicile, une garde d'enfants de moins de 6 ans ou ont déclaré un don à une association par exemple, devraient voir arriver sur leur compte un crédit d'impôt. D'autres qui avaient trop perçu lors du premier versement du mois de janvier devront quant à eux rembourser.
France Inter, 7h37, le journal Charlotte Spiret. Charlotte, bientôt un an qu'une Française de 37 ans a disparu. Au Japon.
Et toujours aucune piste ou explication à la disparition de Tiphaine Véron. Alors une nouvelle fois, sa famille a décidé de faire le déplacement jusqu'à la ville de Nikko, où elle a été vue pour la dernière fois le 29 juillet 2018. La sœur de Tiphaine, Sybille, n'a pas fait le déplacement cette fois-ci, mais suivra de très près ce voyage plein d'espérance.
On se promet rien avant le départ. On sait très bien, avec l'expérience, qu'à chaque retour, on ne revient pas forcément avec grand-chose. Mais on espère quand même que peut-être cette fois-ci, ce sera la bonne. Ma mère a cette certitude, et je la partage, que quelqu'un a vu quelque chose et que cette personne se tait. Donc on espère aussi, par notre présence, remuer les esprits et peut-être pousser quelqu'un à parler, peut-être même la personne qui est responsable, on ne sait pas. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle en vit quelque part. Et de toute manière, qu'elle le soit ou pas, c'est indispensable de savoir ce qui est arrivé. Donc pour ça, il faut que la recherche continue, que la mobilisation continue. Quoi qu'il se soit passé, en fait, Tiphaine ne mérite pas qu'on la retrouve pas. On lui doit ça, c'est le minimum, vraiment c'est le minimum.
Sybille Véron au micro d'Adrien Bossard. Une cérémonie nationale cet après-midi à Besançon en hommage aux trois militaires morts dans une opération en Guyane. Les trois soldats du 19e RG de Besançon sont morts dans une opération contre l'orpaillage illégal la semaine dernière.
Il faudra attendre ce week-end pour voir les températures redevenir supportables.
D'ici là, la canicule est belle et bien là, avec ses 80 départements en alerte orange selon Météo France, soit quasiment tout le pays. Plus de 40 degrés attendu dans le Grand Est, Rhône-Alpes et en Provence, et toujours la nécessité d'une vigilance accrue pour les plus vulnérables, personnes âgées, bébés ou SDF, car dans la rue, on meurt autant en été qu'en hiver. En Seine-Saint-Denis, l'activation du plan canicule signifie aussi plus de maraudes pour les sans-abri. Thibault Lefebvre.
36 degrés à l'ombre, et c'est justement à l'ombre d'une passerelle à proximité du Stade de France et de l'autoroute A1 que Moumina a trouvé refuge.
Ça va ?
Ça va, tranquille, hein ?
Ah ouais, mais là, tu m'as fait peur un petit peu, hein ?
Le corps inerte, avachi sur un banc, la tête en arrière, Moumina, la cinquantaine, un peu plus de 4 ans dans la rue, souffre de la chaleur.
C'est éprouvant, quoi. On a plein même pour respirer, le corps devient sèche, et là, c'est dangereux, vous voyez. La saison de l'hiver comme la saison chaude, les deux saisons tuent, hein ? On aimerait que bon, la température baisse un peu pour qu'on soit soulagé, sinon c'est pas bon.
Suite de la maraude, à moins d'un kilomètre du Stade de France, le long du canal de Saint-Denis.
Il n'y a personne, donc on va laisser une bouteille d'eau fraîche.
Une bouteille d'eau laissée à l'ombre d'une tente à proximité d'un matelas disposé à l'extérieur. Sabrina Benkarich est responsable adjointe de la Maison de la Solidarité de Saint-Denis.
Les SDF sont très exposés aux différents états climatiques, que ce soit l'hiver ou l'été. Donc voilà, c'est aussi faire un petit peu de prévention dans ces périodes-là avec eux. Beaucoup de SDF sont alcoolisés parfois et on sait bien que l'alcool et canicule, ça fait pas bon ménage. C'est ce qui se passe parfois en hiver quand une personne meurt, c'est qu'elle s'est alcoolisée fortement, elle s'est endormie, elle ressent plus le froid. C'est pareil pour l'été.
Été comme hiver, 150 personnes sans abri, complètement isolées, sont suivies par les services sociaux de la ville.
Cap sur gap pour les coureurs du Tour de France, 200 km au départ du Pont du Gard, deux côtes, un sprint intermédiaire et du monde attendu encore sur les bords des routes. Car belle performance tricolore oblige, l'engouement pour ce tour est assez exceptionnel, Fanny Lechevestrier.
Pas besoin d'aller très loin pour constater qu'il se passe quelque chose cette année sur le Tour de France. Chaque matin, au pied du bus de Julien Alaphilippe, vous vous croyez dans un stade de football avec des chants à la gloire du maillot jaune français. Du jamais vu depuis Thomas Voeckler il y a 15 ans. Ambiance à vous donner la chair de poule et faire briller les yeux des enfants.
Ah bah oui, oui, tout le monde. Quand on est là, on veut tous être à leur place. L'ambiance qu'il y a, on a tous envie d'être à leur place, c'est sûr.
Julien Alaphilippe, mais aussi Thibaut Pinot, qui par leurs exploits ont réussi à redorer le blason d'un cyclisme longtemps malmené. Au bord des route, les drapeaux bleu, blanc, rouge se multiplient sous les yeux d'un peloton aux anges.
Il y a beaucoup de pancartes, allez Julien, allez Thibaut, faites-nous rêver.
T'entends les spectateurs qui sont à fond.
Ah, c'est vrai qu'il y a une ferveur autour des Français, on est sur une année impaire, donc il n'y a ni Coupe du Monde, ni Jeux Olympiques.
C'est incroyable, j'ai encore un peu mes yeux d'enfant.
Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde sur le bord des routes cette année que les autres années.
Un public qui vibre au rythme des attaques et qui s'identifie de nouveau à ses champions.
Ils ont la niaque.
Quand les Français gagnent, on est fiers.
Exactement, c'est du panache parce que franchement le vélo c'est un des sports les plus durs.
On attendait pas mieux.
C'est formidable.
Formidable.
Ah bah on y croit bien sûr.
Ah tout à fait, oui, il faut que ça continue.
Un rêve qui va se poursuivre au moins jusqu'à demain soir. Au Pont du Gard, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Un reportage de Fanny Lechevestrier donc. Deux médailles d'or et trois d'argent, le joli butin des escrimeurs français au championnat du monde de Budapest. À un an des Jeux Olympiques de Tokyo, il réalise les meilleurs résultats depuis 20 ans.
C'était Charlotte Piret sur France Inter, 7h42. La route, Cyril Ardot, c'est assez fluide ce matin.
Oui, vous ne devriez pas rencontrer d'énormes coups de frein ce matin. Il y a un petit peu de monde sur l'A1, entre le Bourget et la Porte de la Chapelle, au nord de Paris. Des ralentissements également sur l'A3 entre Gonesse et Noisy-le-Sec, tout comme l'A86 dans les deux sens entre Noisy-le-Sec et Nogent-sur-Marne. À l'A86 en intérieur dans le secteur de Thiers au sud, là aussi quelques coups de frein, ainsi que dans le secteur du tunnel de Champigny sur la 4 en direction de Paris. Ailleurs en France, a priori pas de grosses difficultés pour le moment. Je vous rappelle que la circulation différenciée mise en place à Paris pour les véhicules avec une vignette critère 0 à 2 qui seront les seuls à pouvoir circuler aujourd'hui. Et puis à Lyon, Annecy et Lille, même chose, en ajoutant les vignettes 3 également autorisées à prendre la route.